Bienvenue sur Mutual Radio, la chaîne découverte et curiosité. Mon nom, c'est Janvier Nahimana. Je vais vous présenter une émission, Et la vie va, apprendre les uns des autres. Mon invité, c'est Roxane, qui vient de Bruxelles, en Belgique. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît?
Bonjour Janvier. Effectivement, je suis ici à Bruxelles et c'est un grand plaisir d'être ici sur ton émission. C'est un honneur et un plaisir. Je suis en fait ici en Belgique, mais je suis d'origine suisse. Je suis née à Genève. J'ai fait des études entre Genève et New York. J'ai rencontré mon mari belge et maintenant je suis installée ici depuis 30 ans.
Vous êtes le mélange de toutes les cultures, hein, et je pense que aussi vous avez des origines un peu iraniennes. Et tout ça montre effectivement que votre parcours est très riche. Alors, parlez-nous de votre enfance, s'il vous plaît.
Alors, j'ai une enfance un petit peu entrecoupée, un peu saucissonnée. Je suis née effectivement à Genève d'une maman iranienne et d'un papa suisse. Et eux, ils ont une magnifique histoire d'amour comme ils se sont rencontrés. Et à l'âge de 3 ans, pour le travail de mon papa, on est parti en Espagne pendant un an. Et donc, il paraît que je parlais espagnol avant de parler français parce qu'ils m'ont mis en maternelle espagnol. Et ensuite, on est revenu en Suisse. Et à l'âge de 8 ans, je suis partie avec mon papa et ma maman de nouveau pour New York. Entre-temps, j'ai eu la chance d'avoir un petit frère, David. Et on a passé 5 ans de notre vie dans 1970 à 1975 à New York. C'était des années complètement folles, magnifiques. Je ne me rendais pas compte vraiment où j'étais, mais j'en ai des super souvenirs. Ensuite, on est revenu en Suisse. Pour ce qui est assez rare pour le métier à mon papa, on est retourné à New York et c'est là que j'ai passé mon bac et que j'ai rencontré mon mari en fait à l'âge de 16 ans. Puis je suis revenue en Suisse, j'ai mes études de droit et au bout du compte, je me suis rendu compte que ce qui était mon copain devait devenir mon mari et on s'est retrouvés en Allemagne née et ensuite on s'est installé ici définitivement il y a 30 ans.
Wow, ça c'est vraiment une belle aventure de vie. Et quand tu nous parles de New York, nous on a toujours cette image de gratte-ciel, des gens riches. Est-ce que c'est vraiment la réalité de cette vie à New York?
Ben écoute, je voudrais dire, Janvier, que la vie à New York, telle que je m'en souviens, il ne faut pas oublier que ce sont des souvenirs d'enfance aussi ou de jeune adolescente, sont des souvenirs de New York. Toujours les gens sont pressés, les gens sont très concentrés sur eux-mêmes, ils ne regardent pas à gauche, ils ne regardent pas à droite. Et je me souviens de beaucoup de violence aussi à cette époque. New York n'était pas un endroit où on se sentait en sécurité. Par contre, moi, j'ai jamais senti cette violence directement, je dirais, parce que effectivement, on avait la chance d'être dans une partie de Manhattan qui était pas trop mal fréquentée. Et donc, voilà. Et puis, si je sortais, c'est un school bus qui venait me chercher. Mais rares étaient les fois où je sortais seule. Évidemment, on ne laissait pas une enfant ou une adolescente seule. Et je suis retournée avec les enfants parce que j'ai oublié dire, évidemment, le plus important, c'est que ces 30 ans, j'ai quand même eu droit à 3 enfants, 3 garçons. Et donc, on est retourné pour mes 50 ans à New York et j'étais complètement stupéfaite. J'étais pas retournée depuis les années 80 de la sérénité qu'il y avait dans cette ville. Les gratte-ciels étaient toujours là, clairement, mais la ville était devenue paisible. Et je me souviens d'un moment où je marchais, on venait d'atterrir à New York avec le décalage horaire. On avait été manger avec les enfants des hamburgers. C'était peut-être 1h30 du matin. Comme tu sais, là-bas, la vie est intrépide, les gens sont tout est toujours tout ouvert. Et les petits, les jumeaux, voulaient absolument aller dormir. Et donc, je me souviens de moi marchant dans la rue avec mes jumeaux, un à droite, un à gauche, avec des petites sandalettes, un petit sac à main habillé en été. Et j'étais dans un quartier, la 42e rue, près de Times Square. Et je me souviens que c'était un endroit, à mon époque, dans les années 70, qui était, mais les plus mal famés. Et ce contraste de me dire qu'à l'âge de mes enfants, que j'avais en mes mains étaient, les personnes étaient, moi j'avais le même âge, et si j'étais à cet endroit-là, je n'en sortais pas vivante. Donc oui, New York, intrépide, les gratte-ciels sont absolument magiques. Et bizarrement, on ne se sent pas du tout oppressé. En tout cas, moi, je ne me sens pas oppressé, malgré ces grandeurs qui nous entourent au matin, midi et soir. Par contre, effectivement, je pense que si on veut apprécier la qualité et tout ce que New York a à offrir, je pense qu'il faut quelques moyens, sinon il peut y avoir énormément de frustration et de malaise.
Oui, j'ai eu l'occasion de visiter quelquefois New York. Ma grande sœur qui habite Staten Island, ouais, j'allais la voir et c'était impressionnant de prendre la ferry qui passe à côté de Statue de la Liberté. Et puis de retour, revoir tout le bout de Manhattan, c'est gigantesque. Mais bon, c'est vrai que ça donne l'envie vraiment de découvrir cette. Bon, c'est grandiose, tout est grandiose. Comme tu
Absolument.
sais, j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts, j'aime bien visiter les musées. J'ai
Bien sûr.
profité de MoMA, Metropolitan Museums et tout ça. Et quand j'ai eu la chance de visiter New York, c'était à l'époque que la première fois, les deux tours n'étaient pas encore tombés. Et j'ai eu la chance de monter au dernier étage, voir le coucher du soleil à partir du dernier étage des gratte-ciel. C'était magnifique. Et tu vois le soleil qui descend sur l'horizon et les touristes
Oh, j'en
viennent
ai des
à ce moment.
frissons.
Oui, c'était
J'en
vraiment
ai des
exceptionnel.
frissons.
Avoir la chance de voyager, c'est vraiment très important. Et j'imagine pour vous, à part les gratte-ciel, vous avez été plongé vraiment dans la nature. La nature, la beauté de la nature suisse.
Juste d'abord une première réflexion. Quand j'ai quitté la Suisse pour venir m'installer en Belgique, je pensais que la chose qui allait me manquer le plus serait ces fameuses montagnes, les Alpes, dont tout le monde parle. Mais en fait, ce n'est pas la vie de montagne qui m'a le plus manqué, ce sont les lacs. Il y a énormément de lacs, évidemment, en conséquence des montagnes, les neiges qui fondent entre l'été et l'hiver. Et cette vie autour du lac est une vie absolument extraordinaire et, comme tu dis si bien, proche de la nature. J'ai le souvenir j'étais à l'université à ce moment-là, et pendant l'heure de table, on avait 2 heures de pause. Ben, très naturellement, on se mettait dans l'herbe à côté du lac. Et si quelqu'un avait chaud, on avait anticipé bien sûr, on avait son maillot de bain sur soi. Pendant la pause, ben, on allait simplement plonger la tête dans le lac, se doucher parce qu'il y avait des douches très discrètes comme ça pour se rincer de l'eau du lac. On se séchait un peu au soleil, on remettait sa robe ou son pantalon et on retournait au cours. Et ça, c'est des souvenirs absolument extraordinaires. Le fait aussi de pouvoir se retrouver pour des petits barbecues spontanés avec une simple petite barque. On pouvait aller d'un côté, je ne dirais pas traverser le lac, ça aurait été dangereux, mais en suivant les rives, on pouvait aller d'un endroit à l'autre, passer une soirée, faire un feu de camp. Évidemment qu'on allait éteindre et puis on revenait. Et le ski, évidemment, les montagnes, le ski. Moi, j'ai commencé à skier à l'âge de 4 ans. J'ai eu ma première médaille à 4 ans. Et on dirait, comme il y en a certains qui diraient, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et en tant que Suissesse en Belgique, qui est quand même le plat pays, hein, comme Brel l'a dit, j'avais une seule ambition, disons, en tant que mère suisse, quand j'élevais mes enfants et mes 3 garçons, c'était qu'ils skient aussi bien que s'ils avaient été élevés en Suisse. Donc, à chaque occasion, à Noël, à Pâques ou à Carnaval, on partait en Suisse et ils allaient skier avec moi et Frédéric, mon mari. Et je dois dire que je pense que j'ai atteint mon objectif. Ils ont respectivement 18 et 22 ans. Ils skient bien, ils aiment skier et pour moi, c'était essentiel. Parce que ça m'a apporté, c'est pas par ambition personnelle, mais c'est que ça m'a apporté tellement de plaisir de dévaler des pistes et de voir cet air frais, de crisser sous la neige, que je me suis dit, il faut que je puisse apporter, partager ce bonheur avec mes enfants. Et heureusement, je suis passée du plat pays aux montagnes régulièrement pour que non seulement mes enfants apprennent à skier, mais aussi aient l'occasion de voir leurs grands-parents. qui sont toujours en Suisse, donc mes parents que j'ai heureusement toujours, et qu'ils les voient et que la distance ne les sépare pas trop de leur famille suisse.
Je m'appelle les beaux souvenirs pour les garçons. Ah, tu sais bien
Oui.
que tes garçons étaient amis avec mon fils Mahat. Et
Oui.
rappelle-toi le voyage qu'ils ont fait en Suisse. Ah,
Extraordinaire.
c'était extraordinaire. Mahat, il s'en souvient tout le temps et tous les beaux moments dans les montagnes. Lui, imaginez-vous, vient d'Afrique et n'a jamais fait le ski, mais on l'a fait aimer le ski et le ski de montagne. Et moi, j'ai eu une petite histoire à te raconter à propos de la Suisse.
Je t'écoute.
Tu te rappelles que je jouais les tambours du Burundi en Belgique?
Bien sûr, bien
Alors,
sûr.
on nous a invités de jouer à Genève. Et quand on est arrivé à Genève, presque tous les hôtels étaient remplis. Il y avait beaucoup de conférences qui se tenaient là-bas. Et puis l'organisateur, il a demandé je sais pas, à la municipalité de nous loger dans les bunkers. On nous a descendus dans les bunkers, tu vois, avec les portes qui sont grandes comme ça. Et on est parti dormir dans les bunkers. Et ce qui nous a étonnés, c'est que tout était là. Les lits étaient faits, des cannes à manger, tout était Et ça, c'est une expérience que je ne pourrais jamais oublier. Vraiment, ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de dormir dans un bunker suisse. Et là, on a fait un beau spectacle. C'était agréable. Alors, de la Suisse. Le voyage continue vers la Belgique. Alors, comment vos débuts en Belgique et comment vous avez pris votre place dans cette communauté belge?
Écoute, j'avais déjà un petit peu une expérience, vu que, comme je l'ai dit avant, je connais mon mari depuis l'âge de 16 ans. On ne s'est clairement pas mariés à 16 ans. Mais dès que j'étais devenue un petit peu plus âgée, on était toujours ensemble. J'avais déjà fait quelques allers-retours en Belgique, depuis la Suisse, et voire depuis New York, même au tout début. Et donc, je savais plus ou moins à quoi m'attendre. Je me sentais en sécurité parce que c'est pas comme si on débarquait les deux dans un nouveau pays. Je savais que Frédéric avait sa vie ici, avait ses amis, il y avait mes beaux-parents, mes belles-sœurs avec qui je m'entendais très bien, qui étaient ici. Donc, je n'avais pas ce sentiment d'être trop dépaysée. Par contre, pour une Suissesse qui arrive en Belgique, c'est le mot chaos est le premier qui est venu en tête. C'est-à-dire que la Suisse est hyper réglementée, on ne dépasse pas d'un centimètre quand on se parque, on est bien dans les cases. Donc vraiment, il y a une sorte d'autodiscipline, pour pas dire même que les autres s'assurent que vous soyez bien discipliné, dans un système totalement chaotique à mes yeux. Et je me souviens, mon mari qui me disait, mais ne t'inquiète pas, tu verras. La Belgique ou Bruxelles, c'est de l'anarchie organisée. Alors, pour moi, ce sont deux termes antinomiques. Je ne voyais pas comment c'était possible, mais je dois avouer qu'après 30 ans, ça m'a pas pris 30 ans, mais je suis arrivée à cette même conclusion. Les choses marchent bien. Les gens sont chaleureux dans le sens que le peuple belge, en tout cas les gens à Bruxelles, n'ont pas d'arrogance, ils n'ont pas de prétention. C'est un peuple presque trop modeste, un peu autocritique, que je trouve dommage parce que la Belgique en tant que telle, je trouve, est un beau pays. Bruxelles étant une ville internationale grâce aux institutions européennes et aussi grâce à l'histoire de la Belgique, il y a une grande mixité dans les communautés. Et donc, c'est un pays où je me sens bien parce que justement, pas trop monolithique, un peu comme la Suisse parce qu'il y a aussi trois langues ou trois types, disons, trois origines différentes qui se côtoient. Et je m'y sens bien. Mais c'est peut-être aussi parce que je ne suis pas professionnellement dans un milieu que belge. Je suis aussi dans un milieu plutôt européen. Sinon, je pense que de par mon parcours, que ce soit pour la Belgique ou ailleurs d'ailleurs, d'être dans un endroit trop restreint d'un point de vue culture et origine, je crois que j'en souffrirais.
Comme maman de trois garçons et beaucoup de travail chaque jour professionnellement, Il y a des bons moments qu'on passe. Alors, donnez-nous quelques souvenirs des bons moments de votre vie et je ne manquerai pas vraiment à vous poser la question par rapport à la chorale du Collège Saint-Pierre et tous ces bons moments qu'on a passés ensemble à voir nos garçons chanter dans cette
Ah,
chorale.
janvier.
Oui, quels sont les souvenirs que tu gardes de ta vie?
Alors, de ma vie ici, en tant que maman, en tant que professionnelle, en tant que... Je pense que la première chose, c'est la chance que les... Je dis les femmes, mais ça peut être les hommes ou les pères ou les mères, mais en l'occurrence, il y a plusieurs années en arrière, c'était plutôt les mamans, de me retrouver dans un système suffisamment bien organisé qui m'a permis d'avoir une vie professionnelle et une vie familiale très, très équilibrée. Effectivement, j'ai dû mettre de côté pendant un moment mes ambitions professionnelles. Ça veut dire qu'il ne fallait pas que je vous demande à trop monter parce que, mais le pouvoir prendre presque toutes les vacances scolaire avec ses enfants m'a permis justement d'avoir des super souvenirs avec eux. Et un des beaux souvenirs, ben je vais commencer par ça, Janvier, je crois que tu as raison, c'est de voir un de ses enfants se développer et s'épanouir à travers la musique. En particulier, cette approche du Collège Saint-Pierre avec cette chorale, avec des enfants qui sont pris à un âge, je crois qu'ils avaient, ils ont 8 ans, je crois que c'était à 8 ans, tout petits ils sont pris, ils ne savent pas lire la musique, ils n'ont jamais appris les notes, et ce maître de chorale qui réussit à les faire travailler ensemble de 7 à 77 ans, disons, parce qu'il y a les anciens aussi, étaient des moments d'émotion, de larmes de bonheur. Et je vais rappeler ce moment et tu me diras si je suis si tu as le même souvenir. Mais ce concert, parce que ces petits gars se donnaient en concert dans une magnifique abbaye qui, je pense, cette année a eu la chance d'être enneigée. Et quand vous avez ces petits chanteurs qui chantent des chants de Noël ou des chants eucharistiques dans une abbaye entourée de neige, c'était un moment, ben j'en ai encore des frissons et j'en ai presque les larmes aux yeux. C'était un des moments les magiques et aussi grâce, je dirais, à cette école multifacette et à cette chorale. Ben, c'est un petit peu comme ça, nos enfants se sont rencontrés et nos familles se sont rencontrées. Et c'est une rencontre qui m'est très chère et qui a une place particulière dans mon cœur, en tout cas, Janvier.
Non, mais mon fils, il se rappelle chaque fois le concert au Parlement fédéral.
Oh, oui.
Waouh! Quand les enfants, ils se disent, on était dans le bus et puis il y avait les policiers qui nous guidaient jusqu'au Parlement. Et tu vois, Marat, il a donné la main au prince Laurent dans les
Oh.
couloirs et tout ça. Ce sont des moments qu'il ne peut pas oublier. Et ça, c'est
Non.
vraiment quelque chose de magique. Et je pense que quand même... Ils ont créé une certaine ouverture. Il y avait toutes les nationalités, il y avait toutes
Oui.
les
Oui.
diversités dans cette chorale. Et ça,
Oui.
effectivement, les enfants, ça va les marquer toute leur vie. Et pour toi, en tant que maman et responsable au niveau du travail, comment est-ce que vous avez combiné les deux rôles et comment votre milieu de travail a évolué pour vous?
Écoute, je pense, un petit peu comme j'ai dit avant, c'était la possibilité de travailler à temps partiel, 80%, parce que la loi belge le permettait, le fait d'avoir eu des congés parentaux ou de maternité suffisamment longs. Pour ben, surtout quand les jumeaux sont venus, c'était bienvenu. Ces structures des crèches dans lesquelles on peut mettre son enfant si on le souhaite à partir de 3 semaines d'âge. Bon, heureusement, j'ai pu attendre un petit peu. Donc, la possibilité aussi organisée par les communes des stages à des prix tout à fait raisonnables. quand on a trois enfants. Donc, toute cette structure déjà logistique, et je compare vraiment avec la Suisse, parce qu'en Suisse, j'ai des amis qui ont réussi à évoluer comme moi, je dirais professionnellement en tant que. Évident, mais parce qu'elles avaient la chance d'avoir une maison suffisamment grande, elles prenaient des jeunes filles au pair. Donc, pour avoir quelqu'un en permanence, parce que les structures sociales n'existaient pas, ou alors étaient disponibles de 9 h du matin à 11 h et de 13 h à 15 h. C'est comme ça que tu construis une carrière ou que tu travailles. C'était juste pour soulager les femmes qui ne travaillaient pas, si elles avaient elles-mêmes, par exemple, un rendez-vous médical avec où elles ne pouvaient pas amener ses enfants. J'ai aussi, il ne faut pas oublier, il y a un papa dans l'histoire. Donc, mon mari a aussi joué un grand rôle de permettre cette flexibilité en se partageant des fois les vacances. On ne pouvait pas toujours les prendre ensemble. Et aussi en mettant un petit peu en sourdine ma volonté, ça a eu été dur de temps en temps de voir des personnes qui étaient peut-être plus jeunes que moi devenir mon patron ou mon directeur parce que bon, mais j'étais pas toujours aussi disponible qu'il ou elle à ce moment-là parce que ben, j'ai voulu qu'on me consacrer aux enfants. Donc il y a eu des choix. De la même manière, des fois en disant au revoir à mon fils à la crèche, et quand il pleurait, je me dis, mais c'est ridicule d'aller travailler, je devrais être avec lui. Et il y a des moments où, quand je travaillais, je me disais, ah, si j'avais pu travailler plus, j'aurais le poste qui était à pourvoir. Donc, c'est une question d'équilibre et de mettre certaines de ses ambitions de côté. Mais j'ai eu énormément de soutien de mon mari. Et alors, après, pour la logistique, je dirais, c'est aussi l'entraide. Il y a une grande entraide, mais comme des fois, ben, je prenais ma rate de la chorale, ou c'est toi qui l'amenais ou qui venais le chercher, parce qu'on ne veut pas laisser ses petits bouts marcher tout seuls dans la rue. Donc, je pense que l'entraide aussi entre parents a beaucoup aidé pour tout ce qui était, oui, quotidien, et se sentait moins seul comme ça.
Oui, c'est vrai que quand même, au niveau communal, il y avait pas mal d'activités qui aidaient les enfants et puis aussi à permettre aux parents d'aller faire les courses pendant que les garçons sont en train de jouer au football.
Exactement.
Je me rappelle quand ils ont reçu les premières médailles de football
Ah.
au stade de Léopold, là en bas à
Ah oui, mon Dieu, c'est vrai.
Oui.
Oh là là.
Et Marat, lui, il a eu la chance. Quand la Coupe du Monde avait été gagnée par l'Espagne, on a amené la vraie Coupe du Monde à Bruxelles, au stade Roi Baudouin. Et Marat, il a une photo avec la vraie Coupe du Monde.
Mais non.
Bah oui,
Ah, je ne
ça.
savais pas ça. Alors là, j'ai appris quelque
Oui.
chose.
Non, bon, l'Espagne a voulu montrer la Coupe du Monde à l'Europe et puis alors ils l'ont ramené à Bruxelles. Et j'ai vu ça au journal. On a couru au stade et le garçon,
Extraordinaire.
il a la coupe qui a été touchée par Zidane et Pelé. Ce sont des beaux moments comme ça pour nous les parents, voir les enfants heureux, ça me fait du bien. Alors,
Crois que c'est notre tour. C'est notre but à tous. Dis-moi,
oui,
ma.
quel est votre métier?
Ouh là 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 là. Mon métier, c'est un métier, ça s'appelle lobbying. Je suis la représentante. C'est un peu comme si j'étais l'avocat, mais un avocat, mais j'ai toujours les mêmes clients et j'ai toujours les mêmes adversaires. C'est-à-dire que mes clients sont des compagnies, en l'occurrence des compagnies pharmaceutiques, qui produisent des médicaments pour les animaux, pour des médicaments vétérinaires, qui se sont réunis il y a 30 ans et en se disant, on sait que l'Europe, la Commission européenne, va faire des lois qui auront un impact sur notre business. Donc, c'est plus compliqué pour nous d'aller seul voir la Commission européenne quand on a des questions à lui poser. Cotisons chacun un certain montant et avec ce montant, on va le donner en gestion à une personne qui va engager du monde pour nous aider à comprendre comment se passe, disons là, pour garder un œil sur ce qui se passe au niveau de la Commission européenne. Donc, moi, je travaille, maintenant, je suis la secrétaire générale de cette association. Il y en a 3 000 à Bruxelles, donc tu vois, c'est pas très original. Parce qu'il y a les institutions et mon organisation s'appelle Animal Health Europe. donc Santé Animale Europe. Et j'ai une équipe de 10 personnes qui travaillent avec moi. Et j'ai une douzaine de membres de compagnies. S'il y a des noms qu'on connaît, je ne veux pas faire ici de publicité pour les compagnies, je n'ai pas envie, mais qui sont des grosses boîtes pharmaceutiques et aussi des plus petites boîtes qui sont réparties à travers l'Europe. Donc, et je les représente, je les fais venir régulièrement avant le Covid, évidemment, même après en virtuel. On se retrouve pour identifier ensemble des problèmes ou des solutions. Et une fois on les a, moi je suis leur porte-parole auprès de la Commission européenne ou du Parlement européen ou du Conseil des ministres de la Santé en Europe.
Et alors, quand on parle des animaux, est-ce que tu as un chat ou un petit chien à la maison?
Non, c'est peut-être mon seul défaut. Et vous en avez?
Non, j'en ai pas, mais je sais bien que les filles en réclament tout le temps. Mais c'est juste pour vous dire effectivement que le marché au niveau de la santé animale, ça grandit de plus en plus. Surtout ici en Amérique du Nord, on voit vraiment que les gens, ils aiment bien les animaux de compagnie. Et puis, on voit vraiment des hôpitaux pour animaux qui fleurissent un peu partout. Et puis, je pense qu'il y a de l'avenir là-dedans. Mais par rapport, par exemple, à l'impact du COVID, comment est-ce que vous avez vu par rapport à votre business, le COVID a impacté, de comment faire le business avec cette situation de quarantaine?
Mais, écoute, je pense que je n'ai jamais autant travaillé et aussi bien travaillé que pendant le Covid. Je m'explique. En Europe, au tout début, donc il y a 18 mois, au début de la pandémie, on s'est retrouvé avec l'Europe dans toute sa splendeur, et je dis ça ironiquement, c'est-à-dire que l'Europe, c'est quand même 27, on était 28, mais maintenant 27 pays qui ont leurs frontières. Et même si on est censé être un marché unique, dès qu'il y a un problème, chacun devient très nationaliste. Donc, beaucoup de pays avaient fermé leurs frontières à tout mouvement, en tout cas commerciaux et personnels. Et la Commission européenne avait dit, mais attendez, attendez, s'il vous plaît, États membres, soyez raisonnables, vous devez laisser passer certains biens. Ils ont fait une liste de certains biens, dont les médicaments pour les États. Être humain, la nourriture, voilà. Donc, et à ce moment-là, on n'était pas mentionné. Ils ne pensaient pas que c'était important que les animaux puissent aussi avoir des médicaments parce que tout n'est pas produit dans chaque pays pour tous les animaux. Il y a bien sûr un ou deux sites, des fois au monde, où on produit un certain médicament et après on le répartit. Et donc, j'ai eu la chance disons, en écrivant une lettre à la Commission européenne, en disant, mais écoutez, vous êtes bien gentil, mais vous devez aussi mettre sur la liste des green lanes, les médicaments pour animaux. Et une semaine après, même pas, ils ont rajouté cette exception pour nous. Et évidemment, ça a permis, heureusement, à mes membres, et au secteur d'être traités comme des médicaments pour humains. Ça a permis aux gens qui n'ont pas ce réflexe de se dire que ben, la santé animale est importante. Je ne dis pas peut-être aussi importante, mais elle a son importance. Un animal malade peut contaminer un être humain ou un animal malade ne rentre pas dans la chaîne alimentaire. On ne va pas mettre une vache qui a de la pneumonie, par exemple. On ne va pas la faire rentrer dans un abattoir pour ensuite la consommer. Donc voilà, ça c'était un des beaux moments. Et alors, on a été pris dans la tourmente de cette pandémie. Et on en est même arrivé à un point où, parce qu'on a été reconnu comme essentiel, c'était ça, où nos entreprises ont été sollicitées dans certains pays pour les aider à produire les vaccins, parce qu'ils avaient les machines. On n'allait pas demander à une industrie d'eau, d'aider à produire des vaccins. Ils sont venus chez nous parce que le principe est le même, les animaux et les êtres humains, d'un point de vue, voilà, On avait l'habitude de machines qui travaillaient avec des actifs, des agents actifs pour et aussi de la même manière les laboratoires pour tester. On fait des tests chez les animaux comme on fait chez les humains. Donc en fait, on a été énormément pris dans cette mouvance, mais dans le bon sens. Et je pense que mes membres ont pu aider et à solutionner, disons, apporter quelques solutions à la situation du Covid, alors que ce n'était pas évident à la base pour que les autorités pensent à nous. Donc, voilà.
En tout cas, bravo, bravo de vous combiner tout ce grand travail avec la famille. Et c'est pour ça que cette émission, je l'ai appelée Et la vie va. De toute façon, la vie continue, même avec le COVID, même avec les ennuis. On continue
Absolument.
à espérer une belle vie. Et puis alors, le plus important aussi, c'est d'apprendre des uns des autres. Je pense qu'il y a certains auditeurs qui ont appris quelque chose à partir de votre expérience de la vie et tout ce que vous avez essayé de vivre pour vous, pour la famille et pour la communauté. Et avant de terminer notre émission, j'aimerais juste vous demander quel est votre souhait pour les jours et les années à venir?
Mon souhait, peut-être c'est totalement utopique, mais le respect mutuel ou le respect de la différence.
Merci beaucoup. Merci d'avoir été à m'accompagner pour l'émission Et la vie va. À
Ce fut
bientôt.
mon plaisir, Janvier. Merci à toi.
Merci, au revoir.
Au
OK.
revoir.